Bah c'est parti.
Le Sonolab. Le Sonolab. Sono Lab. Le laboratoire sonore de Jet. Des ateliers sur mesure pour questionner, comprendre, écouter et pratiquer avec le son. Sono Lab.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode pilote d'un podcast de discussion entre jeunes à propos de divers sujets. Alors j'aimerais tout d'abord remercier la radio associative Jet FM qui nous permet de faire ce projet, puis remercier mes invités d'être là aujourd'hui avec moi. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet en particulier qui est l'écologie. Donc il n'est pas du tout question de constater ce qui a déjà été constaté, mais simplement d'évoquer nos ressentis par rapport à la problématique, ce qu'on en pense en tant que jeune Nantais de la vingtaine. Et on va commencer tout ça par un petit disclaimer, en tout cas une petite information qui est que je tiens à préciser que nous ne sommes pas des experts de quoi que ce soit ou des pros dans ce domaine, mais juste des jeunes qui avons envie d'en parler. Donc on risque peut-être de dire des erreurs ou de se tromper sur des faits ou quoi que ce soit. Donc je tiens à le préciser avant. On va commencer peut-être par un petit tour des présentations et je vais laisser mes invités se présenter en donnant leur nom, leur âge et leur rapport peut-être avec l'écologie, en tout cas quand est-ce qu'ils ont été mis au courant de cette problématique.
Moi c'est Féfé, j'ai 22 ans, moi mes darons ils m'ont toujours appris pas mal en fait et informé sur tout ça. Mais aujourd'hui, c'est hyper lointain de moi, en fait, et je m'informe peu.
Moi, c'est Charlotte, j'ai 21 ans, et j'avoue que chez moi, ça n'a jamais été un grand sujet, ni quelque chose, une problématique trop ancrée dans ma famille, mais ça a été plutôt, justement, par ma belle famille, en fait, qui est très écolo, que j'ai été sensibilisée à tout ça.
Moi du coup c'est Fiti et moi non plus j'ai pas spécialement été par ma famille ne m'a jamais du coup informé de ce réchauffement climatique, mais moi ça a été à l'école. Du coup je me souviens que il y avait des on avait organisé des sortes de potagers pour des choses comme ça, enfin tout ce qui touchait un petit peu à l'écologie quoi. J'ai été informé de tout ça à l'école.
Eh bien moi je vais finir le petit tour. Je m'appelle Pierre Loup. J'ai 20 ans et j'ai été mis très jeune au courant des problématiques par mes parents. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je tiens de visu, mais d'assez loin, parce que je préfère me concentrer sur les choses qui m'entourent de proche plutôt que de me saper un peu le moral avec toutes les nouvelles qui tombent assez régulièrement. En tout cas, maintenant qu'on a fait ce petit tour, j'aimerais savoir ce que change la connaissance en fait, de cette problématique au quotidien pour vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment depuis que vous avez pris conscience en fait, de cette chose-là, ou c'est quelque chose qui n'a pas du tout affecté votre vie au jour le jour ?
Moi, du coup, j'ai commencé par essayer de réduire mes déchets. En fait, donc, par exemple... tout ce qui était, j'ai commencé par des choses assez simples dans la vie quotidienne, qui sont bah, par exemple tout ce qui est dentifrice, cosmétique, shampoing, je passe au shampoing solide, ce genre de choses. Après, parce que aussi j'aime bien traîner dans les petites boutiques en vrac. Après, c'est vrai que chez moi c'est un peu compliqué parce qu'on est une famille nombreuse et que bah, c'est pas moi qui gère les courses. Donc par exemple, j'essaye de sensibiliser mes parents moi maintenant. Donc par exemple, bon, ça c'est quelque chose qui maintenant est acquis mais qui ne l'était pas forcément, le fait de par exemple manger des fruits et légumes de saison. Après, par exemple, le tri, c'est quelque chose qu'on a toujours fait chez moi. Mais ouais, réduire les déchets, consommer différemment, moins de vêtements, par exemple, aussi. Mm-hmm. Ce qui n'est pas forcément facile, parce que bah, y a toute une Aujourd'hui, avec la fast fashion, c'est facile de tomber dans les vêtements jetables qui coûtent 10 balles et qui sont dans la tendance qu'on a vue sur Instagram. Mais du coup, ouais, j'essaye de consommer de manière plus réfléchie.
Moi, je... Ouais, un peu la même chose. En fait, surtout au niveau des sapes, moi, j'achète plus de sapes neuves, à part des chaussures, en fait, parce que j'estime que c'est le seul truc qui est chaud à acheter d'occasion. Chez moi, je vais essayer de réduire le maximum les déchets. Tout ça, acheter le moins possible de plastique, en fait, parce que ça dégoûte un peu. Par exemple, tu sais, des fruits et légumes qui vont être directement... Ou du fromage emballé, là, sous vide. Moi, ça me dégoûte, là. C'est vrai.
Ouais, mais du coup, moi, j'ai remarqué que si tu achètes, par exemple, bio en grande surface, il y a plein de... Enfin, dans quasiment 80% des cas, justement pour garantir bio, sans pesticides, tout ça, pour qu'ils soient à part des fruits et légumes non bio, en fait, ils sont mis dans un plastique. Et du coup, je me retrouve souvent dans un supermarché avec ce dilemme de est-ce que j'achète bio, mais sous plastique? Ou est-ce que j'achète un truc bourré de pesticides, mais au moins il n'y a pas de plastique? Donc je ne sais pas, en fait. J'avoue que ce truc-là, je ne sais pas trop quoi en penser.
Alors, on peut aussi peut-être parler de l'augmentation, en fait, ces dernières années, de la prise de conscience. En tout cas, je sais que ça fait des dizaines d'années maintenant qu'il y a des gens qui parlent de ça, en fait, de ce problème de réchauffement climatique, ou en tout cas de pollution, ou ces choses-là. Et depuis quelques années, notamment avec l'arrivée... alors, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je pense que ça arrivait déjà avant, mais en tout cas, on a commencé vraiment à en entendre parler à partir du moment où on a tous commencé à entendre parler aussi de Greta Thunberg, des grands rassemblements à Paris, par exemple, ou dans la France en été. Et j'aimerais parler de deux chiffres, en fait, qui sont la marche du 21 septembre 2014 à Paris, donc pour le climat, qui était composé à Paris même de 5000 manifestants selon la police et 25000 personnes selon les organisateurs. Et de la marche du 21 septembre 2019, qui elle était composée de 38000 manifestants selon les organisateurs et 15000 selon un comptage indépendant. En tout cas, dans toute la France, le 21 septembre 2019, on avait a priori plus de 150 000 manifestants. Donc on voit quand même qu'en quelques années, on a pris énormément de personnes qui ont rejoint le mouvement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pour les jeunes, en tout cas, parce qu'il y a énormément de jeunes qui se font un peu faire de lance de cette problématique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu un effet de mode, en fait, ces dernières années sur le climat, par exemple, ou que ça devient un peu normal de défendre cette cause ou d'en parler, limite à... Enfin, à la limite d'avoir des discours un peu creux pour certains.
Moi, je ne pense pas que ce soit un effet de mode pour la plupart des gens, en tout cas. Et je pense notamment que s'il y a de plus en plus de jeunes qui participent à ça, c'est qu'on va être la première génération, je pense, à être vraiment confrontée à ce réchauffement climatique. Donc, tout simplement, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui en prennent conscience parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir les parents ou l'école pour nous... introduire ces valeurs-là, quoi. Donc, on prend conscience plus ou moins tard, donc voilà. Après, je pense que oui, il peut y avoir un effet de mode, notamment sur les réseaux sociaux, où c'est toujours bien vu que quelqu'un soit engagé dans un sujet, j'ai pas forcément le bon terme pour dire ça, mais un sujet où on sait que tout le monde sera, entre guillemets, d'accord pour dire que c'est quelque chose de bien.
En fait, c'est le sens commun, quoi. Ouais. Faut être sensible à ce genre de choses. Après, j'ai pas l'impression quand même qu'il y ait un effet de mode, dans le sens où, pour moi, t'entendras quand même toujours des gens qui te diront « Ouais, moi je m'en fous, je serai pas là, quoi. » Enfin, moi j'en entends tout le temps. Hein. Tu leur dis « Ouais, consomme comme si... » Enfin, pas consomme comme si, mais fais attention, ça c'est pas très écolo, machin. Ouais, enfin, moi, ça me regarde pas. Dans 100 ans, moi je serai plus là, donc c'est pas mon souci. Donc je sais pas si on peut parler d'un effet de mode. Après, peut-être que juste nous, on est une génération qui est de plus en plus éduquée à ça. Moi je vois mon petit frère, il a 10 ans, à l'école il est bien plus sensibilisé à tout ça que moi j'ai pu l'être, et encore j'estime qu'à l'école j'ai été un minimum sensibilisé. Donc je pense que, enfin, tu prends les générations de nos parents, bah en fait, y a tout. Hein. Y a ceux qui ont été mis au courant bien avant les autres et qui sont très avant-gardistes comparé à... Voilà, quand on voit que ça augmente, enfin, qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une prise de conscience. Mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de générations de nos parents qui, au contraire, ça leur passe complètement au-dessus, quoi.
Mais surtout que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, du coup, il y a eu un temps entre le moment où j'ai pris conscience du réchauffement climatique et conscience que moi j'allais être directement dedans. Donc,
ouais. Entre le, ouais, la conscientisation et le, dans tes actes en fait, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu changes, qu'est-ce que tu fais en fait.
Et bien justement, en parlant de ça, on va sauter directement à un petit article que j'ai sélectionné.
Okay.
Qui, c'est plutôt un article, en tout cas c'est une étude qui a été réalisée en 2019 par le CREDOC, qui est donc le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie. Le changement climatique est ce qui inquiète le plus les jeunes. Donc l'environnement est à la tête des préoccupations chez les 18-30 ans, c'est-à-dire 32% en fait. Devant l'immigration qui est à 19% et le chômage à 17%. L'engagement des 18-24 ans pour la défense de l'environnement progresse. 12% d'entre eux ont participé aux activités d'une association en 2019 contre seulement 3% en 2016, donc c'est quand même bien plus important. Pourtant, l'étude montre que les comportements des jeunes au quotidien ne sont pas plus écologiques que ceux de leurs aînés. Ils sont moins nombreux à trier leurs déchets, à acheter des légumes locaux et de saison, ou encore à réduire leur consommation d'électricité. Et suite à ça, l'Institut Les Humains a mené une grande enquête qualitative auprès de jeunes de 18-25 ans durant un an, et elle dresse le portrait d'une jeunesse très consumériste, peu encline à l'effort. Et selon le site Forbes, ouvrez les guillemets, les jeunes interrogés déclarent ne pas se reconnaître dans le portrait que les médias dressent de leur génération, comme s'ils étaient tous des Greta Thunberg prêtes à sauver le monde. Ils ne se sentent absolument pas investis d'un combat collectif pour l'avenir de la planète. Ils font part de leur envie d'agir plutôt à titre personnel, tout en reconnaissant parfaitement leur passivité dans les faits, engluée dans cette société de la consommation qui sait très bien activer les leviers du plaisir si important pour eux. Voilà, donc grosso modo, ça dit que beaucoup de jeunes parlent beaucoup du réchauffement climatique, mais que dans les faits, on ne fait pas grand-chose, quoi. Et je voulais savoir, moi par exemple, je me prends en exemple en premier, je sais que du coup, comme je l'ai dit au début, j'ai été sensibilisé assez jeune, en tout cas, on me l'a dit très jeune qu'il y avait des problèmes et que l'avenir n'était pas si radieux que ça. Et je l'ai conscientisé il y a quelques années, où j'ai vraiment compris que c'était chaud, quoi, à titre personnel, en fait, comme toi, Fiti. Et en fait, c'est vrai que quand je regarde mon quotidien, il y a des choses auxquelles je fais attention. Par exemple, je trie les déchets, ou en tout cas, je fais attention de jeter mes mégots dans les poubelles ou des choses comme ça, quoi. Mais il y a des choses que je fais toujours que je devrais arrêter, en fait, enfin, avec la conscience que j'ai de ce qui se passe.
Moi, je pense que, en fait, on n'a jamais été aussi conscient des problèmes de l'écologie, mais on n'a jamais été aussi capitaliste et surtout matérialiste. Ça veut dire que là, on est, nous, notre génération. Et ben, je pense que en fait, on est bombardé de pubs ou d'énormément de trucs qui donnent envie de consommer, d'avoir plus ou mieux que les autres. Ce qui fait que, en fait, les courbes marchent pas, quoi. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a énormément de gens qui veulent qu'on consomme beaucoup, et ben, on le fait, en fait. Et ça va continuer comme ça, j'ai l'impression.
Dans nos habitudes aussi, c'est vraiment... on a des choses qui sont ancrées en nous qui font que c'est compliqué. Par exemple, Charlotte tout à l'heure disait qu'elle avait réussi à changer ses habitudes, même alimentaires, manger des fruits et légumes de saison, ce qui, moi, par exemple, n'est absolument pas mon cas. Ouais. Je mange beaucoup de bananes, ou j'adore la mangue, l'ananas, et pour ma part, c'est possible, mais ce sera compliqué d'enlever ça, vu que j'ai été habitué depuis tout petit.
En fait, pour parler très personnellement, là, moi, je mange que des fruits et légumes de saison avec mes parents, par exemple. Et quand je fais les courses, j'essaie aussi de le faire. Mais je ne connais pas tous les légumes et fruits de saison, tu vois. C'est-à-dire, je pense que ça pourrait être un truc cool d'avoir au supermarché directement des infos là-dessus.
Des stands, ouais.
Tu vois, en fait, genre, c'est que si la vie était remplie d'infos, en fait, et que quand on achète un truc, eh ben, on se rend compte aussi de si c'est bien ou pas.
Après, il faut différencier les fruits et légumes de saison et le local. Parce qu'en effet, des avocats, on en aura toute l'année. Je sais pas si on dit que c'est pas un fruit ou un légume de saison, parce qu'en fait, il n'y a aucune saison où on en a en France, par exemple de l'avocat, à part au Pérou, en Israël. Donc après, c'est que c'est pas local.
Aussi, pour aborder une autre partie de la question, personnellement, j'ai une mère qui achète tout dans les supermarchés bio et tout ça, donc c'est assez agréable. Et puis, de toute façon, je l'ai accompagnée plein de fois. Et aussi, j'ai passé un an de fac à Paris, donc seul, où je payais ma bouffe. Et faut aussi dire que être écolo, c'est aussi un peu un luxe, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué pour quelqu'un qui est étudiant ou qui fait avec un boulot d'appoint ou en tout cas qui n'a pas beaucoup d'argent, de se permettre d'aller dans les magasins bio. C'est-à-dire que là-bas, le sirop, c'est vite 7 euros. Quoi. Et tu te dis, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est même impossible en fait, de pouvoir se nourrir là-bas quand tu es très jeune. Quoi. Donc c'est sûr que ça limite un peu l'accès de plein de monde. Et puis même les marchés, ça reste quand même quelque chose d'assez peu accessible, à moins de faire les fins de marché ou ce genre de choses. Donc ça joue pas mal aussi dans les possibilités qu'ont les jeunes de développer ce côté écolo, quoi.
Bah c'est justement un peu, enfin c'est à l'inverse justement la problématique de la fast fashion, le fait que ce soit super, enfin ce soit des vêtements hyper, enfin à bas prix, c'est aussi pour ça que les jeunes en consomment autant. Après je trouve que le truc de oui bah c'est sûr hein, le bio, le local c'est cher, mais je pense que quand on s'informe, quand on après c'est plus de temps, c'est sûr, mais je pense qu'il y a moyen de trouver dans le marché, au marché de près de chez toi, un stand où bon, tu peux trouver des prix abordables. Après, par exemple, je sais que si on se met à faire attention, peut-être par exemple, on peut manger moins de viande. Bah, la viande, c'est quelque chose qui coûte cher, donc peut-être que ça peut compenser, être une balance. En fait, bon, bah, j'achète moins de viande, donc cette partie de budget, je peux la réinjecter dans des produits plus responsables à côté.
On va passer à un extrait qui dure quelques secondes. C'est l'extrait d'une publicité pour l'entreprise Total, voilà, qui parle d'écologie, du coup. Je vous la diffuse maintenant. Okay.
Il nous faut aussi limiter l'impact de nos activités et de nos produits sur l'environnement. Réduire les émissions de CO2. Nous y travaillons. C'est une priorité. Les solutions miracles n'existent pas. Nous avons fait le choix de développer des énergies complémentaires, comme la biomasse, le nucléaire et aussi l'énergie solaire, qui sont pour nous des solutions réalistes d'avenir.
Ok, donc ça c'est un extrait d'une publicité pour Total qui date de 2008. Donc ouais. C'est quand même pas tout proche, sachant que ces dernières années, selon le site 24 Heures Monde, Total est dans le top 20 des entreprises les plus polluantes sur la planète.
Bien sûr que oui.
Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu une appropriation du réchauffement climatique par les marques, en fait, d'une certaine manière ?
Le greenwashing.
Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un an ou quoi, j'avais vu une pub passer de Total, justement, et qui m'a fait chercher cet extrait, où Total disait... Dans mon souvenir, c'était un truc du genre conscient des nouvelles problématiques environnementales, Total devient Total Energy. Et donc en fait, ça annonçait juste un changement de nom pour dire qu'ils se mettaient à jour, quoi. Et c'est assez flippant, quoi. Si tu regardes la télé, moi je sais que j'ai pas de télé, mais ça m'est déjà arrivé d'être chez des gens qui l'avaient, qui passaient des soirées à la regarder. Et franchement, c'est aberrant comment tout le monde en parle dans les pubs.
Bah, genre... L'écologie, c'est hyper marketing maintenant.
Oui, parce que consommer. Vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à consommer, ça passe. Alors, ouais, c'est un peu ça, quoi.
Il suffit juste de changer la couleur du logo, de le mettre vert, les gens ont l'impression de consommer.
C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec McDonald's, d'ailleurs, qui a passé du rouge au vert en France, il me semble. Ouais. Et au début, ça a
Je
fait...
Je savais pas que c'était pour un truc un peu écolo.
Alors non, alors c'était pas vraiment pour un truc écolo, c'est juste pour donner une image plus saine à la nourriture, tu vois, donner l'impression que c'est moins fast-food, quoi. Et en fait, c'est une proposition qui a été faite par la McDonald's France, qui a été vachement rejetée au début par McDonald's d'origine, donc les Américains, et qui, en fait, a tellement modifié la courbe... d'achat chez McDonald's, c'est-à-dire qu'ils ont fait tellement de chiffres grâce à ce changement, en fait, ça a vraiment été fulgurant, que plein de pays sont mis à adopter cette enseigne verte, notamment en Europe, et peut-être qu'on va finir par un McDonald's entièrement vert sur toute la planète, mais ça montre quand même que rien que la façade permet de changer vraiment l'image, quoi. C'est assez fou, et du coup on se demande, est-ce que il y a une limite, en fait, à cette appropriation, et est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule, en fait, pour parler crûment ?
Effectivement, oui, mais je pense que ces groupes-là pensent toujours d'abord financièrement plutôt qu'écologiquement, donc c'est un peu ça le souci, au final. Donc,
Après, c'est vrai que c'est difficile de, par exemple, jeter la pierre à une industrie qui est fondée sur quelque chose d'extrêmement polluant. Mmh. Après, je pense qu'il y a évidemment des moyens de s'adapter. Et quand on a autant d'argent, je pense qu'il y a le moyen. Enfin, c'est possible. Mais après, j'avoue que je trouve que oui, c'est compliqué de critiquer ce truc-là, quoi.
Pour revenir à Total une dernière fois, là, je sais qu'eux, ils ont une partie fondation, Total Fondation, dans laquelle ils investissent justement comme pour se dédouaner de tout ce qu'ils font de dégueulasse à côté.
Mmh.
Et ils investissent dans des projets écologiques, justement.
J'aimerais vous faire écouter l'extrait d'une vidéo YouTube du média Combini qui s'appelle « L'urgence climatique, Emmanuel Macron répond à nos questions ». Donc c'est une interview d'Emmanuel Macron, du coup. Et on lui pose une question par rapport au réchauffement climatique, justement, et je serais curieux d'avoir votre réaction sur sa réponse.
Mm-hmm. On vous reproche votre bilan écologique sur ce quinquennat. Nous, on a quand même une vidéo qu'on voulait vous montrer, parce que l'éco-anxiété est un vrai sujet dans notre société, et ça commence dès le plus jeune âge.
Je pense que le sujet le plus important de la campagne, ça devrait être quoi ?
Défendre la nature et sauver la planète.
Voilà. C'est pas le seul. Moi, personnellement, je suis très anxieuse. Mais vous, ça va ?
Mais... Bah oui, parce que moi, si j'étais sujet à l'anxiété, ça n'irait pas depuis longtemps. Si je puis dire, compte tenu de ce que je fais. Après, c'est un peu vertigineux. Mais ce qui est vertigineux, c'est que c'est du micro-local, si je puis dire, à l'international. C'est ça, ce qui est super compliqué sur ce sujet. Mon premier message, c'est... On va ensemble faire le max de boulot, on va accélérer, mais nos enfants, gardez l'innocence. Et donc je pense qu'il faut nous tous qu'on préserve ce droit.
Ils l'ont pas déjà un peu perdu.
Ce droit à l'innocence, oui, mais c'est notre responsabilité à nous aussi de les protéger de tout ça. Il y a toujours eu des angoisses.
Ça à 18 ans,
Non, mais il faut les former. Mais je veux dire, apprendre quelque chose, c'est pas forcément dire c'est insurmontable. Je fais cette petite parenthèse, c'est hyper important pour moi parce que.
Voilà, bon, je coupe après parce qu'il dit la suite de sa phrase qui n'a plus trop de rapport avec ce qu'on dit. En tout cas. Est-ce que vous rejoignez cet avis que on doit préserver les plus jeunes de ces infos-là, ou au contraire, est-ce qu'il faut dès le plus jeune âge leur faire comprendre que c'est pas grave en fait, que c'est important et que c'est vraiment une problématique qui va être très inhérente à leur vie à eux, quoi.
Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense même que, après, c'est mon avis personnel, mais je pense même que pour plein de sujets importants, peut-être même aussi importants que le réchauffement climatique, pardon. Il faut au contraire l'instruire dès le plus jeune âge, que ce soit vraiment ancré, que ce soit des bases pour les futurs adultes en fait. Alors que justement là le petit, je sais pas quel âge il a, mais visiblement il a entre 3 et 5 ans.
Un truc comme ça.
Oui, un truc comme ça. Si lui il arrive à ses 10 ans, être aussi performant que nous maintenant à nos 20 ans, enfin...
Et encore, moi je me sens pas performant à mes 20 ans
voilà, en plus, quoi.
Sur l'écologie du tout, hein, au contraire. C'est vrai que la raison pour laquelle je l'ai sélectionné cet extrait, c'est parce que j'ai trouvé ça un peu facile en fait, d'une certaine manière, de dire non, mais faut leur éviter de savoir ça, enfin, pas de savoir, mais de leur enlever leur innocence si jeune, parce que en soi c'est une conséquence directe, comme le disait l'intervieweuse. Le stress dû à ces informations sur le climat est hyper présent en France. En fait, il y a énormément de gens qui en souffrent beaucoup, d'être paralysés à l'idée que l'avenir est un peu sombre sur certaines choses. Et que, tu vois, par exemple, il y a le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, qui dit qu'on a grosso modo 3 ans avant de plus pouvoir faire marche arrière. On n'a pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui va être géré en 3 ans, quoi. J'ai pas du tout l'impression qu'on va réussir à tenir ce délai. Après, je suis peut-être un peu pessimiste.
Surtout qu'en plus, comme on est dans un pays quand même assez aisé, et le fait qu'on ne voit pas directement ce réchauffement climatique...
Est-ce qu'on le voit pas, en fait, un peu quand même ? Il y a beaucoup moins d'insectes que quand j'étais gamin, par exemple, tu vois ?
Bah, rien que... Enfin, après, ça, c'est pour tout le monde, mais rien que... Le temps, enfin la météo, les saisons, enfin,
oui.
Bah, c'est pour une petite vieille, mais enfin il y a plus de saisons, quoi. Il fait pas très froid l'hiver, il fait chaud l'été, quoi. Enfin, on peut s'en rendre compte. Après, est-ce qu'on veut le voir,
c'est oui,
une
c'est
autre
vrai.
Question. Mais après, évidemment, je pense qu'on est préservé et privilégié comparé à d'autres
oui,
pays.
Ça,
mais
c'est sûr.
Pareil pour revenir à la question des enfants. Moi, je pense que au contraire. Il faut les éduquer. C'est pour moi une véritable éducation à ces problématiques-là qui doit en ressortir. Après, évidemment, il ne faut pas leur inculquer comme une fatalité où le but n'est pas de plomber cette génération, mais de leur donner des clés en fait, pour, à l'avenir, ne pas avoir des habitudes à devoir effacer comme nous, on est aujourd'hui en train de lutter. Après, évidemment, je pense que, je sais pas si ça suffit, enfin, bah justement, c'est pessimiste, hein, mais est-ce que ça suffira juste d'une génération qui est un peu plus éduquée à ça, plus jeune? Je pense que, je sais pas, je suis pas sûre.
Ce serait suffisant si c'était à l'échelle mondiale, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça le souci.
Mmh. Ouais, on peut pas tous être... Enfin, je pense qu'au contraire, on se sent pour beaucoup très en retard en France.
Oui.
Mais je pense qu'on est... Si on compare tous les pays du monde, on n'est pas si en retard que ça. Quoi. Mmh. C'est ça qui est un peu flippant aussi.
C'est flippant, mais d'un côté aussi, c'est que souvent, on jette la pierre à des pays qui sont en développement et qui polluent énormément. Mais en fait, nous, on a juste... on s'est juste développé plus tôt et on a pollué... Enfin, on pollue toujours, mais je veux dire, on a pollué à cette échelle-là, mais plus tôt. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de pointer du doigt certains pays alors que bah, juste ils ont peut-être le droit aussi à leur développement, même si c'est totalement dramatique, hein, mais
c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau international, et ça rejoint un peu la question: est-ce que la solution pour avancer, ce serait pas de travailler à notre échelle micro-locale? C'est vrai que même nous, à notre échelle, on a énormément de choses à faire pour être clean avec la planète, tu vois. Et moi, je ne me sens pas actuellement, même si je trouve ça dégueulasse, évidemment, je ne me sens pas légitime de reprocher à des industriels et tout ça d'être complètement polluant, sachant que même moi, à mon échelle, je ne suis pas correct, parce qu'il y a plein de choses que je fais que je devrais éviter de faire, quoi.
Ouais, moi, j'avoue que c'est une question que je me pose beaucoup, parce que même si j'essaye de faire attention, clairement, je pense qu'on a chacun aussi nos limites. Quand, par exemple, tu dois voyager et que bah, l'avion est beaucoup moins cher que le train, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me demande toujours ce truc de est-ce que même si on s'y mettait tous à notre échelle, ça suffit? Quand on voit que des entreprises comme Amazon, rien que la maintenance des serveurs, juste ça, en fait, ça pollue autant qu'un pays entier qu'est le Portugal. Il y a toujours ce rapport-là, et je me dis qu'il ne faut pas se culpabiliser et se dire « Ouais, bah, ça ne suffit pas, donc autant pas le faire ». Je pense qu'au contraire, il faut lutter contre cette pensée-là et faire le plus qu'on peut. Et bah, justement, en fait, ça permet de changer ses habitudes. Ça permet aussi, je pense, de changer les habitudes des autres. Et peut-être qu'en changeant de consommation, bah, si tout le monde comprend qu'Amazon, c'est un peu de la merde, bah, en fait, finalement, peut-être qu'Amazon s'adapte. Enfin, je pense que si ça vient de nous...
Personne ne vient acheter là-bas...
Exactement, je pense que s'ils ne le feront pas d'eux-mêmes, peut-être que si ça vient de nous, mais évidemment, il faudrait que ça soit...
Après, encore une fois, c'est hyper compliqué parce que, par exemple, typiquement Amazon, je sais que j'aime bien faire des activités artistiques, de la peinture ou en tout cas de la création d'accessoires, des choses comme ça. Je sais que mon matériel, si je vais dans le magasin de matériel artistique près de chez moi, je vais payer un certain nombre. Si je commande le même matériel sur Internet, je paye deux fois moins. Et je ne peux pas me permettre, et je pense que énormément de gens ne peuvent pas se permettre de payer plus par choix d'éthique, en fait. Et je crois que c'est un vrai problème aussi, quoi, ce qui fait que tout le débat est un peu bloqué aussi par ces questions-là, quoi.
C'est vrai que vouloir consommer responsable, ça a un prix. Mmh. Et après, tout dépend de comment on place ses priorités. Et après, c'est pas pour autant que c'est mal, et que si on n'en fait pas sa priorité numéro une, c'est mal. Non, tu peux pas reprocher à quelqu'un... pour des raisons économiques de pas consommer responsable, mais j'espère qu'à l'avenir, en tout cas, on arrivera à trouver une sorte de compromis pour ça, et que à l'avenir, consommer responsable, ça sera pas un luxe, en fait.
Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, c'en est clairement, parce que nous, on est tous plus ou moins sensibilisés, on voit bien dans notre entourage, dans nos groupes de potes, déjà, regardez, on est autour d'une table pour parler de ça. Je suis pas sûre que tout le monde ait cet accès à la question, tu vois.
Puisque tu parles de nos groupes de potes, moi j'ai quand même l'impression que on n'en parle jamais de ces choses-là, en vrai. Et quand on en parle, tout le monde est plus pessimiste les uns que les autres, quoi.
Ah, c'est clair, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est plus éduqués. Enfin, j'ai l'impression qu'on est plus, tous ou moins, dans un milieu où. Nos parents se le permettent, ou on a plus accès à ça que d'autres, quoi.
Complètement. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, faut pas non plus se culpabiliser. Je pense qu'il faut agir en fonction de sa conscience personnelle, quoi. Tu vois, si jamais pour toi, tu veux être clean avec ton environnement, faut tout faire pour le faire. Mais en tout cas, même si on n'arrive pas à s'en sortir de ce problème et que les pollueurs polluent toujours plus et qu'on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux, au moins, à l'échelle individuelle, on aura la paix de savoir qu'on est en phase avec notre conscience, quoi. Donc ça, je trouve ça un peu important. Je vous remercie d'avoir passé tout ce temps avec moi ici.
Pour l'invitation.
j'espère que ça a été intéressant pour les gens qui nous écoutent. En tout cas, je finirai sur une phrase de Geronimo qui dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. »
Pas mal.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao, ciao.
C'était un podcast réalisé par Pierre Loup dans le cadre des ateliers Radio Libre. On espère que ça vous a plu et on vous rappelle que si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous souhaitez peut-être participer à ce type de podcast discussion sur des thématiques citoyennes, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous rappelle que vous pouvez venir tous les mercredis hors vacances scolaires dans les locaux de Jet à partir de 16h et sinon nous contacter à l'adresse mail suivante sonolab@jet-asso.fr. Ce podcast sera également rediffusé vendredi et podcastable sur le site du Sonolab www.sonolab.fr. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine sur Jet. Au revoir.